Salut à tous et bienvenue encore une fois pour le podcast hebdomadaire Super Physique. Je suis avec l'incroyable, le fabuleux, le blond vénitien, Julien Vénesson, auteur du livre La Nutrition de la Force.
Salut à tous.
Et ce soir je suis avec El Sabre, alias Philippe, donc membre du forum Super Physique, qui a le site elsabre.com et qui est un peu le spécialiste multisport du forum.
Salut à tous, salut Rudy, salut Julien.
Donc Philippe est là ce soir parce que je voulais qu'on fasse un petit podcast spécial CrossFit, vu qu'on avait pas mal de questions sur le sujet et puis que c'est le moment des compétitions en ce moment. Donc El Sabre, comme il s'y connaît mieux que moi, on va pouvoir lui poser plein de questions. Donc en ce moment, si j'ai bien suivi, il y a les CrossFit Games, c'est ça Phil?
C'est ça, donc il y a la phase open des CrossFit Games, donc c'est la phase qui est ouverte à tout le monde. Les gens qui sont inscrits en salle de CrossFit ou les gens qui participent dans leur coin.
Donc comment ça se déroule? Tout le monde peut s'inscrire par Internet?
Voilà, tout le monde peut s'inscrire par Internet. Il y a 5 épreuves à passer, donc du 6 mars au 7 avril. Il y a une épreuve par semaine. Donc il y a déjà 2 épreuves qui se sont déroulées. Donc on peut faire valider son épreuve soit dans une box officielle de CrossFit, soit envoyer sa vidéo sur le site qui sera validée ensuite par des juges.
D'accord, donc il faut faire donc les 5 épreuves avant les éliminations ou il y a des éliminations à chaque épreuve?
Non, il y a un classement qui est fait à l'issue des 5 épreuves. Il y a des classements par région. Donc l'Europe, les États-Unis sont divisés en plusieurs régions, l'Australie, etc. Et donc ensuite ils organisent des régionales. Ils prennent les 60 meilleurs de chaque région pour faire un espèce de championnat d'Europe, on va dire, hein, des championnats régionaux. Donc pour l'Europe, ça se déroulera du 17 au 19 mai au Danemark. Et à l'issue de ces régionales, ils prendront les 3 meilleurs de chaque région pour la finale des CrossFit Games qui a lieu chaque année en Californie. Ça sera au mois de juillet, du 22 au 28 juillet, je crois.
Donc, j'ai vu que tu participais. Alors, est-ce que tu as tes chances de nous représenter?
Alors, non, je n'ai aucune chance de vous représenter. Ça, c'est la deuxième année que je participe à la phase open. Donc, non, moi, j'ai aucune chance de me qualifier. Hein, j'ai pas le niveau. Par contre, il y a quelques Français qui ont des chances de se qualifier, notamment Gigor Johan de Toulouse, qui s'était déjà qualifié pour les régionales l'année dernière. Je crois qu'actuellement il est classé 38e européen, donc il a ses chances pour cette année encore pour se qualifier pour le Danemark.
D'accord. Et voilà. Donc nous à notre plus petit niveau, donc j'étais contacté par CrossFit Lourd, donc pour faire une petite publicité pour les French Throwdown. Vous avez vu mon accent anglais qui est super. Donc qui est en quelque sorte les qualifications pour le championnat de France.
Ouais, t'es bien. Hein.
Rigole pas ou sinon Akuma parle à ta place.
Ouais, donc là cette année, ils appellent ça les French Throwdown, parce que toutes les compétitions organisées par Reebok ont cette appellation. Donc oui, c'est l'équivalent des championnats de France de CrossFit. Donc ça se déroulera tout de suite après la phase open du 14 avril au 28 avril. Donc là, il y aura 3 VOD à faire, un par semaine. Donc là, ça sera annoncé le dimanche et on aura une semaine pour faire le VOD. Et donc à l'issue de ces 3 semaines d'épreuves, ils sélectionneront, je crois que c'est les 40 premiers pour une finale des championnats de France qui aura lieu au mois de juin sur Paris.
Voilà, donc plutôt. On voit que le milieu du CrossFit est quand même assez actif.
Là aussi, c'est ouvert à tout le monde, hein, CrossFitter ou.
Tu vas participer?
Oui, je vais participer. Surtout qu'en plus, ils ont introduit une catégorie vétéran là pour les plus de 40 ans. Donc là, par contre, j'ai des petites chances de
Ah merde, t'es si vieux que ça?
J'ai 41 ans, là, dans 2 mois, donc. donc j'ai un peu plus de chances de me qualifier.
Ah, et Rudy, ça pourrait être ton père.
Ah, t'as quel âge, Julien, déjà?
Moi, j'ai 60 ans, mais j'ai utilisé beaucoup de Botox.
Julien, c'est marrant, parce qu'au début, quand il était sur les forums, comme il vous voyait tout le monde, on se disait tous, mais il doit être vieux, ce mec-là. Non, mais c'est vrai, t'étais là à ses débuts, Phil?
Ça remonte à quand tes débuts? Moi je suis sur le net depuis 2009 quoi. Donc...
Ouais, il est arrivé un peu avant Julien.
C'était là avant, ouais.
Et avant, et tout le monde croyait que c'était un vieux. Jusqu'au jour où on le voit en vrai, on se dit mais c'est qui ce minet?
Ah oui, parce que oui, c'est vrai que t'avais toujours ton avatar de gros mythe, donc oui, on voyait pas ton visage au début.
Alors qu'en fait, il avait quoi? Il avait 22 ans, le mec.
Ah oui, mais il tient un discours qui est sérieux et.
Ouais, 22 ans. Tu sais pas compter, hein.
T'as quel âge, Julien? Tu vas avoir 30 ans, c'est ça?
À peu près, ouais.
Ah, il veut pas dire, il a l'âge éternel. Il vieillit pas. C'est ça, les roues. Hein? En antenne, quand je lui dis qu'il est roux, il aime pas, hein. Je vous préviens. C'est pour ça que... Donc, on revient sur le CrossFit. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le CrossFit, je voulais qu'on fasse un petit point là-dessus. Donc, sur le site, t'avais fait un article, Finn, justement, sur le CrossFit.
Ouais, il y a quelques temps, déjà, il y a 2 ou 3 ans, hein.
Voilà, au lancement. Donc, est-ce que tu peux résumer le CrossFit? Qu'est-ce que tu peux résumer le CrossFit?
Ouais, donc rapidement, le CrossFit, c'est un sport, en fait, hein, qui a été inventé par un Californien il y a... C'était au milieu des années 80, hein, donc il y a 15-20 ans. Au départ, l'idée, en fait, c'était de préparer les gens à tous les gestes de la vie quotidienne qu'ils pouvaient être amenés à faire. Donc, soulever des sacs, sauter par-dessus un muret, enfin, être prêt un peu à tous les gestes de la vie quotidienne. Et petit à petit, ça s'est transformé en un vrai sport. Puisque le but c'est devenu de développer vraiment des qualités physiques. Ils ont identifié une dizaine. Donc l'endurance, la force, la vitesse, etc. Et donc maintenant c'est devenu un vrai sport où le but du jeu c'est de devenir le plus polyvalent possible en fait. Et développer un maximum de qualités.
J'ai compris, c'est articulé autour de 3 bases en fait. Donc l'haltérophilie, la gymnastique
et le cardio. Voilà. Mais bon, c'est plus ouvert que ça. Hein. Le CrossFit, en fait, le but, c'est développer des qualités et des compétences. Après, les moyens, c'est ouvert. Donc là, ils sont partis sur l'haltéro parce que bon, ça fait la preuve de son efficacité. La gymnastique aussi, le cardio aussi. Mais ça peut être aussi du powerlifting, ça peut être du strongman, ça peut être. C'est ouvert sur tous les moyens sont bons en fait.
Ouais, hein. Y a pas de limite donc.
Non, y a pas de limite. C'est le CrossFit, c'est un but. Après, il y a des moyens qu'on peut utiliser. Par exemple, pour le cardio, on peut faire du Tabata, on peut faire du rameur, du vélo, de la course à pied, enfin du triathlon. Tout, y a pas de limitation. C'est vraiment une discipline qui est ouverte sur les autres sports.
D'accord, donc c'est un sport. Et donc comment s'organise l'entraînement du CrossFit? Parce que souvent, moi je me souviens au tout début, le CrossFit était vraiment décrié. On disait que les mecs finissaient complètement cassés parce qu'on voyait les entraînements sur...
Ouais, parce que les gens ne savaient pas trop ce que c'était. Et après, c'est vrai que quand tu veux montrer quelque chose sur le CrossFit, tu vas pas montrer une séance de force où le mec il fait du 5x5 ou du 7x3. C'est ennuyeux. En fait, les gens regardent pas ça. Ce que les gens veulent voir, c'est... lorsqu'ils enchaînent les mouvements, ce qu'on appelle les metcons, c'est des VO, enfin des entraînements pour travailler le conditionnement métabolique, où ils enchaînent sans se reposer plusieurs exercices.
Voilà, c'est comme la compétition en fait, comme les.
Voilà, visuellement, c'est vrai que les gens sont intéressés par ça, mais ça c'est qu'une toute petite partie de l'entraînement de CrossFit.
Donc c'est vrai qu'au début on voyait ça et on se disait non mais c'est pas ça vraiment l'entraînement qu'on se disait. On fait ça tout le temps, on va finir complètement démotivé. On peut s'entraîner super dur comme ça à chaque fois.
Ouais, ça fait partie de l'entraînement, mais il n'y a pas que ça.
C'est une partie.
Il y a une grosse base de force. Hein, moi, j'aime à dire que le CrossFit, en fait, c'est un sport de force qui nécessite de l'endurance, et non pas l'inverse. Donc, il y a une grosse base de force, il y a une grosse base de technique, parce qu'il y a beaucoup de mouvements à maîtriser. Donc il y a une grosse base de technique à travailler sur tous les mouvements, et ensuite il y a le conditionnement métabolique qui est une autre partie importante du CrossFit.
Donc comment se passent les entraînements en fait?
Donc les entraînements en fait ça dépend beaucoup de ton niveau et tes objectifs. C'est évident qu'un jeune qui veut participer au CrossFit Games qui a 20 ans, il va pas s'entraîner comme une mère de famille de 50 ans qui fait ça juste pour le plaisir. Ceci dit, la base reste la même. Glassman, il aime à dire que nos besoins sont tous les mêmes par nature, mais qui diffèrent juste dans leur intensité. C'est-à-dire que tout le monde doit être capable de savoir s'accroupir, de courir, de soulever un objet, de pousser, de tirer. Donc il y a juste l'intensité qui va différer. Donc une séance typique telle que c'est pratiquée dans les salles de CrossFit, c'est généralement divisé en 3 parties. Donc une partie de bon, après un échauffement et éventuellement des exercices de mobilité articulaire, on va avoir une base de travail de force, ensuite un travail de la technique, ce qu'on appelle le skill, et enfin un VOD, donc le working of the day, qui sera généralement un petit enchaînement de plusieurs exercices qui va durer entre 6 et 15 minutes pour là travailler la partie conditionnement métabolique.
Ouais, donc on voit que c'est plutôt quelque chose de complet et non pas quelque chose comme on voyait au tout début, justement juste avec la partie métabolique.
Ouais, c'est on va dire la partie conditionnement métabolique, c'est peut-être un tiers de l'entraînement en CrossFit. C'est à un gros tiers qui est la force et un autre tiers qui est la technique.
Mais d'ailleurs, en parlant de force, on voit que la plupart des athlètes du CrossFit sont tous très très forts.
Ouais, c'est enfin si on veut être performant. Mais y compris pour le conditionnement métabolique, c'est-à-dire que si tu dois faire enchaîner des exercices avec une charge qui est proche de ton maxi, tu te rends compte que tu vas être très très vite essoufflé, alors que si la charge qu'on t'impose ça représente que 50% ou 40% ou 30% de ton maxi, tu vas t'essouffler beaucoup moins vite. Donc là tu vois que même pour du conditionnement métabolique, c'est très important d'être fort.
C'est ce qu'on dit dans préparation physique, c'est que la force est la base un peu de tout le développement des...
tout à fait
dans ouais, cette qualité, c'est... mais en même temps on voit pareil que donc comme on parle de la force, que là j'ai plus les noms en tête parce que c'est vraiment que je regarde pas trop le CrossFit, mais qu'il y avait d'anciens powerlifters qui s'étaient mis au CrossFit en maigrissant un peu.
Ouais, des anciens haltéros, il y a beaucoup de gens qui viennent du football américain, quelques chez les filles il y a beaucoup de gymnastes ou des gens qui viennent de l'athlétisme.
Donc, en fait, qui ont déjà une grosse base et qui viennent après la travailler en plus. Donc forcément, ça donne des super athlètes tels qu'on voit.
Ouais, parce que bon, là, c'est parce que la discipline est jeune, hein. Mais là, dans les prochaines années, il y a des gens qui vont arriver et qui ont fait que du CrossFit, hein. Mais parce que j'ai à force de s'entraîner en haltéro, en powerlifting, etc., ils commencent à avoir un super niveau, hein. Donc,
ouais, parce que
le gars qui a fait 10 ans d'haltéro, par exemple, dans une salle de CrossFit, au bout de 10 ans, il a un super niveau. Pour le moment, comme la discipline est jeune, c'est des gens qui viennent d'autres disciplines. Mais dans quelques années, ça sera plus le cas.
Ouais, parce que moi,
là, tu vois, il y a, on jouait des petites jeunes qui arrivent là, qu'on 16-17 ans. C'est des filles qui font que du CrossFit. Elles commencent déjà à avoir un niveau très très élevé. C'est des filles qui vont en 5 ou 10 ans, elles vont exploser. Hein, vont...
Parce que ce que je reproche justement un peu au CrossFit pour l'instant, c'est de mettre en avant des mecs ou des filles qui sont musculairement, mais qui a énorme, qui a d'un point de vue naturel pour nous, qui ont un niveau ouais. Incroyable. Et nous dire bon bah tout ça c'est grâce au CrossFit.
Ouais, mais moi je pense que c'est possible hein, grâce au CrossFit. C'est enfin le CrossFit c'est pas différent. Enfin quand tu vois un haltéro qui est énorme, tu te dis pas oui il fait du bodybuilding à côté. Non, le mec il fait de l'haltéro.
Ouais, mais je vois l'haltérophile naturel et je vois l'haltérophile charlu. Ouais, je vois la différence. Je vois le mec naturel. Oui. Je vois qu'il a des cuisses, il a un peu de dos.
Comme le cycliste de surpiste qui est dopé, il va avoir des cuisses énormes voilà. Aussi. Et ça n'empêche pas que le mec fait du cyclisme. Le CrossFit, c'est pareil. Tu sais, je t'en avais déjà parlé. Je pense pas que le CrossFit soit épargné par le dopage. Hein. Il y a pas de, je vois pas par quel miracle ça pourrait arriver. Donc oui, il y a certainement du dopage. Mais c'est pas parce qu'il y a du dopage que tu peux pas te développer physiquement en faisant du CrossFit.
Non, mais
c'est juste que tu auras pas le même niveau, quoi.
L'exemple cycliste, je comprends pas très bien parce que les cyclistes sur piste ont justement énormément de musculation.
Oui, ils font énormément. Mais le CrossFit, c'est aussi énormément de musculation.
Oui, non, parce que tu dis, il a des gros cycles, mais il fait du cyclisme.
Non, mais le cycliste sur piste, il fait pas du bodybuilding. Quand voilà. Il va faire de la musculation, il va faire du travail de force sur du squat. Il faut se dire que le crossfitter, il fait beaucoup de squat aussi, il fait beaucoup
non,
de
squats.
Je
suis d'accord avec toi, mais c'est juste.
Oui, les crossfitters ont des cuisses énormes, mais c'est parce qu'ils travaillent leurs cuisses voilà. Quasiment tous les jours. Quoi.
Mais après, d'accord. Ce que je voulais reprendre, c'est sur la question qu'on me pose souvent, on me dit oui, mais regarde les mecs au CrossFit, ils sont énormes, nanana, et
Bah ils sont énormes, c'est pas des bodybuilders, hein. Même tu prends l'élite des CrossFitters, ça ressemble pas à des bodybuilders.
Ouais, mais t'en as qui sont légers, mais t'en as quand même pas mal qui font taille poids sec, alors ouais, que
plus
nous...
10, hein, là, pour être au niveau, c'est grosso modo, il faut être à taille plus 10. Hein.
Voilà, donc taille plus 10.
Pas être trop lourd non plus, parce que comme t'as beaucoup d'exercices de gymnastique et au poids de corps... Il faut trouver un compromis en fait avec entre la
tu
masse.
Vois, tu vois bien taille plus 10 sec. Moi, je vois sur qu'il y a le nombre de personnes que j'ai entraîné. Je vois les forums depuis plus de 10 ans. Naturellement, en s'entraînant pour faire du muscle, il y en a très très peu.
Ouais, il te faut du temps quoi. Il te faut 10 ou 15 ans pour y arriver.
Et en t'entraînant exprès pour.
Ouais.
Exprès pour faire du muscle. Donc c'est un peu ça que je reproche au CrossFit. Donc le CrossFit, dans le sens où ça permet justement de, voilà, de, comme tu dis, de devenir polyvalent,
de progresser. Bah, tu deviendras pas un bodybuilder, hein, ça c'est clair. Voilà. Hein. C'est le mec qui veut vraiment faire que du volume musculaire, il y a plus rentable, hein, il y a plus rentable que le CrossFit.
Non mais c'est la parenthèse pour dire que le CrossFit fait devenir polyvalent, tu deviens plus musclé, plus fort, plus endurant, mais tu ne deviens pas aussi musclé que si tu entraînes suivant par exemple les conseils du site pour prendre du muscle.
C'est évident.
Ouais, mais pour toi c'est évident, pour moi c'est évident, mais pour beaucoup c'est pas évident. Et donc c'est important, encore une fois, j'aime bien le dire, de définir ses objectifs dès le départ pour savoir ce qu'on veut faire.
Je suis entièrement d'accord avec toi.
Pour pas nous dire des trucs à dormir debout. Et donc c'est vrai que le CrossFit permet de devenir polyvalent et on voit vraiment. Donc justement, avant c'était vraiment cantonné aux États-Unis, aux autres pays. Depuis maintenant, ça fait quoi? Ça fait quelques années maintenant que ça arrive en France.
Ouais, depuis ces trois dernières années, il y a plusieurs box qui ont ouvert en France, à Montpellier, Toulouse, Bordeaux, plusieurs en région parisienne, à Lyon. À Rennes, il y a plusieurs projets en cours un petit peu partout en France. Donc oui, ça commence à se développer. Il y a eu du retard à l'allumage en France.
Voilà, mais depuis que Reebok est arrivé, ça.
Ouais, je sais pas si c'est Reebok ou si c'est le fait que oui, si peut-être que ça a été un peu plus médiatisé, que les gens en entendent un peu plus parler. Et ça commence à la sauce commence à prendre là en France. Et un peu pour tout dans le monde, puisque là on est arrivé à, on a dépassé les 4000 box dans le monde. Donc c'est ce qui est quand même énorme pour une franchise de ce type. On voit l'évolution aussi du nombre d'inscrits. Par exemple au CrossFit Games, donc l'année dernière il y avait 70 000 inscrits. Là on est presque à 140 000 cette année.
Le double.
Donc, tu vois la progression, c'est 50% par an, grosso modo, de progression.
Ouais, donc,
bon, moi je le vois aussi pour tous les messages que je reçois, il y a vraiment de plus en plus de gens qui sont intéressés par.
Ouais, parce que moi aussi je vois là j'ai un élève que j'avais pas eu depuis longtemps qui est revenu, pareil, il me dit le CrossFit et puis il est à fond aussi. Donc Julien, si tu m'écoutes, je te fais un petit coucou.
Ah, c'est vrai que c'est une discipline qui est valorisante parce que bon c'est vrai que c'est bien d'être musclé, de se sentir musclé, mais c'est aussi très bien de sentir en capacité de faire des choses. J'ai parlé aussi un peu sur le forum. C'est être musclé, tu te trouves jamais assez bien, quoi. T'es jamais assez musclé, t'es jamais assez sec.
Ouais, je vois ça.
Quand tu sais faire quelque chose, tu sais le faire, quoi.
Mais tu veux plus.
Ça, c'est un sentiment qui est durable.
Imagine aussi plus, ouais, mais si t'arrives à faire, par exemple, j'ai pas d'exemple, mais comme en performance, si t'arrives à faire 200 au squat, tu veux faire 210.
Tout à fait, ouais.
Alors, mais CrossFit, c'est pareil. Si tu fais 2 minutes à ton WOD, tu veux faire 1:50.
Non, mais tu vois, le jour où tu sais faire un muscle-up, le jour où tu sais faire un double under,
ah oui, c'est un accomplissement.
Tu vois, le jour où tu maîtrises bien l'overhead squat, tu vois, c'est quelque chose c'est un sentiment qui est assez durable. Alors que se sentir bien physiquement, c'est rarement doux. Tu te trouves bien le matin,
et puis tu regardes dans la glace. Et moins manger un jour et puis tu te sens
bien.
Et
après, c'est.
Ouais, c'est plus éphémère.
c'est vrai que c'est une discipline qui est assez valorisante.
Donc pour revenir au sujet des salles, justement, il faut pour pouvoir enseigner le CrossFit, il faut avoir un diplôme du CrossFit.
Alors, en France, c'est un petit peu particulier, parce que comme tu le sais, pour pouvoir encadrer une séance sportive contre rémunération, il faut un brevet d'État ou une licence STAPS. Enfin, en fait, il faut un diplôme qui soit reconnu par l'État. Ensuite, pour le CrossFit, il faut, pour pouvoir utiliser le nom CrossFit, et parce que c'est une marque, hein, il faut en plus
Oh l'arnaque.
Ouais. Bah non, mais c'est comme les miles, c'est comme n'importe si tu veux ouvrir un McDonald's ou n'importe quoi, il faut si tu payes une licence, c'est un peu logique, quoi. Parce qu'il y a quand même beaucoup de travail qui est fait derrière de promotion du sport, donc c'est normal de payer les créateurs et ceux qui font la promotion de ce sport. Donc oui, il faut un diplôme qui se passe en deux jours, une certification CrossFit qui se passe en deux jours où on t'apprend.
Il y a plusieurs niveaux.
Il y a plusieurs niveaux, oui, il y a trois niveaux en fait. Le premier niveau suffit pour ouvrir sa salle et pouvoir utiliser le nom. Ensuite, le deuxième et troisième niveau sont très très élevés. À ma connaissance, il n'y a personne qui l'ait passé en France. Autant le premier niveau est relativement accessible pour quelqu'un qui maîtrise l'anglais et qui travaille un petit peu, autant le deuxième et troisième niveau, c'est vraiment du haut niveau.
D'accord. Donc tout à l'heure on a oublié de parler, donc ça, je pense que ce sera intéressant pour nos auditeurs.
Je voudrais rajouter, il y a aussi une multitude de certifications qui sont liées au CrossFit, genre CrossFit gymnastique, CrossFit strongman, etc., qui sont aussi délivrées par des spécialistes dans chaque discipline. Par exemple, Rob Orlando, qui est un strongman assez connu, qui fait du CrossFit, parcourt l'Europe et les États-Unis pour faire des certifications, pour apprendre aux gens à soulever une pierre d'Atlas, à faire des mouvements de strongman. Donc il y a aussi d'autres certifications plus spécialisées, surtout en gymnastique.
À l'époque, je regardais, il y avait aussi CrossFit Football, il y avait pas mal de...
Il y a pas mal de
dérives encadrées par le CrossFit.
Voilà, tout à fait. Bah, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sports qui nécessitent une relative polyvalence. Bah, les sports collectifs, ça en fait partie. Donc, mais qui ont quand même des besoins un petit peu plus spécifiques que, par exemple, un sportif d'endurance n'a pas tout à fait les mêmes besoins qu'un footballeur américain. Donc, on fait des adaptations.
Qu'est-ce que tu penses justement de cette dérive du CrossFit à vouloir à tout prix en comme une solution universelle pour la préparation physique, justement?
C'est pas une solution universelle. Je pense que ça, pour un sport qui est extrême, enfin, et encore, je pense qu'il y a beaucoup de jeux de sport qui nécessitent de la polyvalence. Et même, je te dirais que même dans un sport qui demande vraiment, qui demande pas de polyvalence, mais qui est très, très spécifique, je pense que trop, un excès de spécialisation, c'est pas forcément bon non plus. Ça peut entraîner des risques de blessures, des déséquilibres.
Oui, mais je suis d'accord que c'est
un sportif de niveau. Un minimum de polyvalence, ça peut être une bonne chose.
Mais on est d'accord que ça, c'est un travail de PPG hors saison.
Oui, tout à fait. Oui. Ah ben, c'est clair que le.
En fait, ce que je reproche, c'est pareil. On entend le CrossFit. Là, par exemple, on avait l'exemple avec les footballeurs américains avant. Oh, ils font du CrossFit. C'est grâce à ça qu'ils progressent.
On voit bien que le CrossFit, comme je t'ai dit, c'est un but. Le CrossFit, c'est par exemple le but, c'est gagner en force. Est-ce que gagner en force, c'est bon pour un footballeur américain? Je te dirais oui. Maintenant, le moyen, ça pourrait être autre chose que le CrossFit. Ça pourrait être le mec qui peut faire du powerlifting, du strongman.
Mais pareil, parce qu'il y avait pas mal de dérives là-dessus. Moi, je trouvais que on disait oui, le CrossFit solution universelle, un peu à un moment. C'est pas une solution universelle. C'est juste. Ça peut être
donc moi je vois pas le CrossFit comme un moyen. Pour moi c'est un but. Donc si le but est partagé, le CrossFit oui, pourquoi pas. Après.
Ouais, mais c'est juste cette universalité qui m'embêtait un peu en fait. Donc peut-être alors on a parlé de la séance en elle-même, mais comment s'organise l'entraînement de CrossFit par exemple sur une semaine?
Là encore ça dépend de tes objectifs. Hein.
Je veux me préparer au CrossFit Game.
Alors si tu veux, il va falloir que tu progresses en force sur un certain nombre de mouvements. Donc en général, ce que les CrossFitters font, c'est qu'ils adoptent ce qui marche. Donc ils suivent un cycle de force. Et ça peut être du 5-3-1 de Wendler. Ça c'est ce qu'a fait par exemple Chris Piller. Ça peut être de l'EDT de Stanley. Mais ça peut être n'importe quel autre. Le but c'est de prendre de la force. Donc à la rigueur, tu choisis le cycle qui t'attire, que tu sais que tu vas suivre sur la durée. Ensuite, tu vas devoir travailler ta technique pour maîtriser les mouvements que tu maîtrises pas encore, ou même améliorer tes maxi. Hein, tu sais que si tu gagnes de la technique, mais à force constante, si ta technique t'améliore, tu vas augmenter tes barres. Améliorer tes capacités d'endurance et de résistance, donc par l'intermédiaire de VOD. Donc sur une semaine, ce qu'on fait, c'est qu'on alterne à la fois les exercices et les types de sollicitations. Je prends un exemple, les tractions. Il y a une séance où tu vas faire des tractions lestées lourdes. Un autre jour où tu vas travailler par exemple la technique sur le butterfly pull-up ou les keeping pull-up. Tu sais, c'est ces tractions où ils utilisent l'élan et la
l'élan
montée.
L'élan où ils bougent un peu, ouais.
Ouais, en fait, moi j'aime à dire que si jamais tu veux t'aider des jambes, autant apprendre à le faire efficacement. Plutôt que céder ses jambes et de bouger comme un asticot, autant apprendre à le faire de manière efficacement. Les crossfitters, ils savent très bien le faire de manière efficace, puisque les meilleurs, ils peuvent enchaîner une centaine de pull-ups, hein. Ce qui est énorme, hein.
Ouais, ce qui est énorme. Je me souviens des vidéos.
C'est vrai qu'au début, c'était choquant, parce que les gens, ils savaient pas pourquoi ils le faisaient.
Ça ressemblait à des tractions trichées.
c'est des tractions trichées, mais enfin trichées. Disons que t'as un objectif, c'est tu pars bras tendu, t'arrives en haut. Voilà. Après, comment faire pour y arriver? On va chercher le moyen le plus efficace. Donc au début, les gens ils cèdent de la montée des genoux, ils cèdent du bassin. Après, ils se rendent compte qu'en laissant partir les omoplates un petit peu en avant et laisser le corps partir en avant, c'est un petit peu plus efficace. Donc petit à petit, la technique s'affine jusqu'à trouver la technique où tu vas être le plus économe en énergie, le plus rentable. Mais là encore, c'est pas dogmatique. Hein. Si demain quelqu'un trouve une meilleure technique que les crossfitters, je te garantis que tous les crossfitters l'adopteront. Hein.
Par contre, il y a un point que là, ça me fait penser dans le crossfit que j'aime bien, c'est justement cette fraternité,
l'aspect communautaire.
Voilà, l'aspect communautaire où tout le monde s'encourage, où il n'y a pas de grosses têtes, où ça ressemble un peu, c'est un peu ce qui m'a inspiré aussi, hein, c'est deviens meilleur toi-même. Ce que j'avais parlé à un moment, que j'avais vu sur le blog de Yves Pat. Le mindset. Donc progresser soi-même. Pas forcément devenir le meilleur, mais je trouvais ça vraiment super intéressant. Au-delà de cet aspect un peu sectaire des fois qu'on retrouve, donc avec cette universalité comme je parlais tout à l'heure.
Alors, donc en fait c'est lié aussi à la nature de ce sport. Comme il y a tellement de choses à apprendre, tellement de domaines à maîtriser, tu peux pas être au top dans tous les secteurs. Tu vois, tu peux être par exemple très fort mais un peu moins bon au poids de corps. Tu peux être bon en haltérophilie mais moins bon en gymnastique. Donc en fait, quel que soit ton niveau, tu auras toujours quelqu'un de meilleur que toi.
Voilà, tu auras toujours un point faible.
Tu auras toujours à apprendre de quelqu'un. Donc en fait ça t'es obligé de faire preuve d'humilité et en fait toi t'as tout intérêt à partager ce que tu sais de manière à toi aussi en retour bénéficier de l'expérience des autres. Donc, moi aussi c'est un aspect que vraiment j'adore. Tout le monde s'encourage et tout le monde s'échange des tuyaux, des conseils, c'est un aspect communautaire que j'apprécie particulièrement dans le crossfit.
Ouais, c'est vrai, c'est assez sympathique.
L'objectif, c'est vraiment progresser, hein. Enfin, acquérir des compétences, améliorer ses qualités physiques. Donc, on perd jamais de vue cet objectif. Donc, et comme il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à maîtriser, t'es vraiment obligé de piocher à droite, à gauche pour essayer de t'améliorer, pour apprendre en permanence.
Donc après, Julien, sois là présent.
Ah oui, je suis là, j'étais en train de m'endormir.
Non, Julien, il est à côté, il est en train de caresser Akuma. Juste avant le podcast, j'ai failli enregistrer un nouveau jingle qui a fait un jingle pour l'émission, mais je me suis retenu.
Raté ton coup.
Donc dans le crossfit, on voit que c'est un certain type de diététique qui est préconisé, donc c'est la diète paléo. Donc Julien, qu'est-ce que la diète paléo? Je sais que tu adores ce genre de questions, alors quelles sont les bases de la diète paléo? On va y aller petit à petit.
La diète paléo, ça consiste à adopter l'alimentation qu'on a eue pendant plus de 8 millions d'années, avant l'introduction des céréales dans l'alimentation humaine et aussi de la consommation massive de produits laitiers, qui sont des phénomènes assez récents. Actuellement, les dernières estimations, c'est autour de 30 000 ans, et puis l'agriculture, c'est environ il y a 10 à 15 000 ans. Donc c'est très récent à l'échelle de l'homme, puisque les premiers hominidés, c'était environ il y a 9 millions d'années à peu près. Donc du coup, l'idée du régime paléolithique, c'est de dire qu'on n'est pas adapté, on n'est pas génétiquement fait pour consommer tous ces aliments modernes, on n'a pas eu le temps de s'y habituer. Donc le régime paléolithique, c'est principalement déjà un régime sans céréales et sans produits laitiers. Donc c'est beaucoup de fruits et légumes, de viande, de poisson, des œufs, des tubercules, des choses comme ça. Par contre, c'est pas, il faut pas se tromper, c'est pas un régime sans glucides, hein, le régime paléolithique. Il y a quand même pas mal de... On estime qu'il y avait environ entre 35 et 40% de l'apport calorique journalier qui était sous forme de glucides à l'époque, donc c'est loin d'être nul. Donc c'est principalement ça, et puis après chacun fait sa petite sauce. Il y en a qui se contentent de supprimer les céréales qui contiennent du gluten. Du coup, ça rend le régime plus facile à suivre, puisque ça autorise le riz, le quinoa, enfin c'est pas vraiment une céréale, mais c'est assimilé à une céréale. Donc voilà, et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est en fait suivre un vrai régime paléo, c'est concrètement c'est pas possible. parce que, par exemple, en ce qui concerne les viandes, c'est quasiment impossible de trouver des viandes qui ont les mêmes caractéristiques nutritionnelles que celles de l'époque. Donc notamment, à cause de l'agriculture de nos jours, les graisses des viandes ont beaucoup changé, qu'elles contiennent beaucoup plus d'acides gras oméga 6, beaucoup moins d'acides gras oméga 3 que par le passé. Et puis, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo qui est sur mon site internet, les graisses animales stockent les polluants chimiques qui ont été introduits par l'homme, comme le bisphénol A, qu'on a utilisé dans les canalisations, et donc qu'on retrouve dans l'eau, et donc qu'on retrouve dans les graisses animales. Donc voilà, il y a eu beaucoup de changements qui font que je pense que si on veut faire un régime paléo, il faut faire quelques petites adaptations.
Donc concrètement, est-ce que ce type de régime, entre guillemets, est une bonne chose ?
Bah oui, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes dans le régime paléo, ça c'est certain. Hein. Je veux dire manger des aliments moins transformés, limiter sa consommation de céréales, de produits laitiers, il y a rien de négatif là-dedans. Hein. Manger plus de fruits et légumes, c'est plutôt très bien. Hein.
Donc en fait, ça ressemble à du bon sens déguisé en marketing.
Bah non, marketing pas vraiment, c'est plus une mode. C'est plus un peu une mode, mais c'est vrai que voilà, avant les gens qui font par exemple ce qu'on appelle le régime signalet, c'est aussi un régime paléo. Maintenant le mot paléo est associé à une mouvance qui est un peu plus à la mode, ça a permis de faire plus connaître ce mode alimentaire. En tout cas, ça n'a rien de nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui est pratiqué par pas mal de gens et qui est pas une mauvaise chose, hein.
Ouais, c'est vrai que le fait de diminuer sa consommation de produits industriels et de manger un peu plus de produits frais, c'est bon tout de suite. Il faut pas être devin pour deviner que ça va avoir des répercussions positives sur la santé.
Ouais, c'est
les gens consomment du coup plus de fibres, moins d'acides gras trans, etc. Donc les gens assez rapidement ils constatent des bénéfices sur la santé.
Il y a aussi le fait qu'il y a énormément de gens qui sont intolérants au gluten sans le savoir, et donc de fait, en suivant un régime paléo, ils vont avoir un meilleur état de santé, tout simplement.
En parlant de ça, quand est-ce que sort ton livre, Julien, déjà?
Donc mon livre qui parlera effectivement en grande partie de l'intolérance au gluten et de toutes ces histoires de céréales, de blé, de maladies diverses et variées, il est prévu qu'il sorte au mois de mai. Mais j'ai pas encore de date précise à vous donner.
D'accord. Donc sur le paléo, on en a parlé un peu avant de commencer, mais il y a des suppléments un peu recommandés quand même, Phil, tu disais.
Bah oui, les oméga 3 notamment, comme disait Julien, l'alimentation moderne, elle est quand même un peu plus riche en oméga 6 qu'en oméga 3, donc c'est vrai que les gens qui mangent pas paléo sont assez fans des oméga 3, par exemple en supplément.
Ouais, il y a aussi bon là c'est de la redite encore, mais bon il y a peut-être des auditeurs qui n'ont pas écouté les podcasts précédents ou qui n'ont pas lu mes livres. La vitamine D c'est hyper indispensable parce que l'homme paléo c'était un homme qui vivait en extérieur, qui était constamment exposé aux rayons UV et qui avait un statut en vitamine D bien meilleur que le nôtre actuellement où on passe beaucoup de temps à être enfermé. Donc le complément alimentaire de vitamine D me semble aussi indispensable. Comme toujours, hein.
Ouais, donc on voit que l'alimentation paléo est quand même une alimentation santé, qui regroupe un peu tous les conseils de base qu'on répète chaque semaine en fait, mais tout est condensé en fait sous le terme alimentation paléo.
Bah ouais, mais à la base c'est plus santé que performance, hein, l'alimentation paléo.
Mais on peut quand même être performant.
Bah, c'est vrai que ça se traduit aussi par de la performance, parce que en tout cas, en particulier quand j'ai envie de dire, en fait, on supprime le fait de supprimer les céréales, c'est des aliments qui sont très hyperglycémiants. Donc, les hyperglycémies, bah, ça, c'est associé à des coups de pompe, c'est associé à des maladies chroniques aussi. C'est pas quelque chose de génial, et c'est vrai que quand on mange des aliments comme beaucoup de fruits et légumes, moins de glucides qui font piquer l'insuline, on a moins de coups de mou, on est quand même plus en forme. Je sais pas, Philippe, si tu fais aussi le régime paléo ou juste...
Non, moi je suis pas la diète paléo. parce que bon, je suis un grand fan des produits laitiers notamment.
Oh là là, quelle honte. Oh, un mythe s'effondre.
Mais bon, alors pour parler des performances, un petit peu, parce que je suis quand même pas mal les athlètes de haut niveau en CrossFit. En fait, c'est assez peu suivi. Enfin, plus on monte en niveau, moins c'est suivi. Ce qui se passe en fait, c'est que plus le niveau monte, plus le volume d'entraînement augmente.
Ouais.
Et en fait, ça devient très difficile d'être strict du point de vue paléo quand tu commences à avoir des besoins au-delà de 5000 calories par jour, quand tu montes à 7000, 8000 calories par jour, que tu t'entraînes 2-3 fois par jour, ça commence à être très difficile de suivre une diète strictement paléo quand tes besoins caloriques explosent. Donc en fait, à très haut niveau, les crossfitters de haut niveau ne suivent pas de diète paléo.
Ben ça, c'est sûr.
Voilà, pour quelqu'un qui s'entraîne moyennement, qui n'a pas des besoins caloriques énormes, je pense que ça peut avoir un bon effet à la fois sur la performance et sur la santé. Maintenant, à très haut niveau, ça on le sait tous, hein, plus le niveau monte, moins on laisse l'aspect santé de côté, enfin plus on laisse l'aspect de santé de côté, et plus on privilégie l'aspect performance. Hein,
c'est... L'homme paléo passait pas ses journées à faire du crossfit, hein, ça c'est sûr. Hein.
Ouais, il était peut-être
comment
économe
ça,
en énergie.
Comment ça, il était voilà. Pas du crossfit. Non, mais... tu dénigres.
Ouais,
bah. L'évolution.
Ah non, mais bon, comme l'a dit par exemple Frédéric Delavier dans un podcast récent, dans une vidéo récente, plus t'as du volume musculaire, moins c'est bon pour la survie. Hein, donc je pense pas que les paléolithiques c'était des monstres de muscles. C'était des gens qui devaient plutôt courir une bonne partie de la journée. Et ils avaient pas forcément des besoins caloriques. Aussi important qu'un gars qui fait 90 ou 95 kilos.
Bon, on a bien aimé. Je crois que Phil, tu avais une question très technique pour le petit Julien.
Oui, j'avais une question pour Julien parce qu'il a fait très récemment une vidéo super intéressante sur le code d'identification des résines et des plastiques. Où il expliquait en fait qu'il y avait une codification qui était représentée sur les produits en matière plastique. Et moi j'avais une question personnelle en fait, c'est que j'utilise des gourdes d'une marque américaine qui sont classées 7, donc qui étaient plutôt déconseillées par Julien dans sa vidéo, mais qui sont garanties sans BPA. Mais j'avais lu une réflexion de Julien qui disait sur le forum que en fait les BPA c'était qu'une partie que la partie immergée de l'iceberg et qu'il pouvait y avoir d'autres problèmes que le bisphénol A. Donc voilà, j'aurais aimé savoir si Julien pouvait nous en parler un petit peu plus et nous donner plus de détails.
Oui, alors bah, le bisphénol A, quand maintenant on vous vend un produit qui garantit son bisphénol A, on vous dit pas ce qu'on a mis à la place, qu'est-ce qu'on a utilisé pour avoir les mêmes propriétés dans le plastique qu'on avait avec le bisphénol A. Dans les conserves, par exemple, actuellement, comme j'explique dans la vidéo, on a aucune autre alternative technique que le bisphénol. À savoir, comme le bisphénol A est en train d'être interdit, les industriels utilisent maintenant du bisphénol S, qui est, d'après les toxicologues, encore plus dangereux pour la santé humaine, mais lui, il est autorisé, donc du coup, on l'utilise, c'est génial. Et pour les plastiques 7, en règle générale, ils contiennent pas de bisphénol A, ça c'est sûr, par contre, ils peuvent contenir des phtalates, et aussi peut-être d'autres produits douteux, ça fait partie des plastiques douteux, donc que je déconseille de les utiliser. Et voilà, le problème des plastiques est assez large. Tout à l'heure aussi, on a parlé avant de lancer le podcast, on a parlé aussi du fait de chauffer les plastiques, puisque dans ma vidéo, j'explique qu'il faut absolument éviter de chauffer les plastiques au micro-ondes, même si on vous dit que vous pouvez le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde les spécifications techniques des plastiques, on se rend compte que oui, ça peut passer au micro-ondes. Mais pas plus de, je sais pas, pour un exemple au hasard, mais en général c'est 500 watts une minute par exemple. Et 500 watts une minute, personne n'utilise son micro-ondes à 500 watts une minute parce que ça chauffe pas. On utilise des micro-ondes modernes, c'est plutôt 800, 900 watts. Et en général un peu plus qu'une minute. Donc du coup le plastique a tout à fait le temps de libérer toutes ces saloperies dans la bouffe. Et prenez 30 secondes pour mettre dans une assiette vos aliments avant de les mettre dans un micro-ondes et avant de les manger.
De toute façon, globalement, tu déconseilles les plastiques. C'est, ah, tu conseillerais plutôt.
C'est pas inerte comme matière. C'est un dérivé du pétrole, la grande majorité des cas. C'est pas un truc super, non?
Si donc on peut conseiller, ouais, si tu devais conseiller, ça serait plutôt, c'est plutôt Linux, tu conseillerais, c'est ça?
Bah, Linux, oui, ça fait partie des matériaux pour lesquels on est certain qu'il n'y a absolument aucun danger pour la santé. En plus, c'est très résistant. Par contre, c'est un petit peu plus lourd, surtout quand on doit se balader en camping ou pour une autre raison qu'on doit se déplacer et porter des charges.
Et pour le micro-ondes, ce serait quoi, la céramique?
Bah, le micro-ondes, à partir du moment où il n'y a pas de plastique et pas de métal, tout est utilisable en fait. Donc une assiette classique, le Pyrex, c'est très bien aussi, c'est spécialement étudié pour ça. Sinon, c'est tout. Hein.
D'accord, merci.
Donc pour conclure ce petit podcast, je demanderais bien des petites nouvelles d'Akuma. Donc comment va Akuma, Julien?
Bah écoute, là il a tendu l'oreille parce que je crois qu'il a entendu que tu l'avais appelé. Mais sinon, bah ses journées, ça se passe bien, environ 22 heures à dormir, 5 minutes de chasse, et puis à chasser des souris imaginaires, et puis voilà.
Il chasse dans la maison, dans l'appartement.
Non, tu joues avec lui, je suppose, non? Tu joues avec lui, c'est que ça a besoin de vachement jouer.
Il a j'ai mon pointeur laser qu'il aime beaucoup. Ah. Et le soir, il lit les e-books de Rudy Koya, en fait, avant de se coucher.
Bah, il fait bien. Il fait bien, d'ailleurs. La semaine prochaine, je vous parlerai de mon nouvel e-book. Mais c'est pas encore le moment. J'ai pas encore tout à fait fini. Donc voilà. Donc on a fini pour ce petit podcast spécial CrossFit. T'avais rien à rajouter, Phil?
Non.
On a fait le tour du sujet.
Si les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à les poser sur le forum, j'essaierai d'y répondre, hein, s'ils ont des questions un peu plus spécifiques. Et de toute façon, plus largement, n'hésitez pas à aller sur le forum et à poser vos questions sur tous les sujets.
Et donc, n'oubliez pas de lire le site de Phil, donc elsabre.com.
Ouais, surtout le plus Facebook en fait, hein, parce que je suis plus actif sur mon Facebook. Ouais, sur mon site, je suis pas trop actif. Les articles, c'est un peu long. Je préfère les billets plus courts. Je peux balancer sur Facebook. C'est plus rapide.
Donc
et plus
pareil, donc il y a une page donc sur Facebook où on peut cliquer. On peut
voilà, elsa.com.
Ça marche.
Et donc, vous pouvez me poser aussi des questions via Facebook.
Donc merci à toi d'être venu clarifier les choses sur le CrossFit. On avait besoin d'un spécialiste.
Avec plaisir.
Donc je ne remercie pas Julien Vénesson comme d'habitude. Petit William Carnimola. D'ailleurs, cette blague a fait rire beaucoup d'internautes sur Facebook. Julien,
je sais pas. Ouais, j'ai vu, ouais.
Il y a un mec qui t'a massacré. Il était tout content.
Ah bon?
Il a dit, ah, William Carnimola sur ta page Facebook, nouvellement créée.
Ah, oh, bah ça va, non, il était sympa, lui.
Ouais, ça m'a bien fait rire. On était content de cette blague. Avec Patrick, on avait bien trouvé.
Donc voilà. Comme Michael Gunzil, tu vas réutiliser la blague 10 ou 20 fois.
Ah, au plus, hein, au moins 100 fois.
Ouais.
Le principe du comique de répétition.
Et on peut peut-être faire une petite parenthèse puisque c'est le dernier podcast avant le salon Body Fitness de ce week-end.
Pour dire que Julien Vénesson sera présent au salon samedi après-midi sur le stand Olympe, donc avec Christophe Bonnefond, donc co-auteur du livre L'assiette de la force. C'est bien ça, Julien?
Ouais, c'est ça, ouais. Philippe, non plus, tu seras pas là?
Non, je serai pas là, non.
Donc non, non, bah de toute façon, pour ceux qui ont déjà été, qui n'ont jamais été au salon, ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel. On retrouve surtout beaucoup de stands de protéines, avec beaucoup de mecs qui posent, donc à 95% du temps ne sont pas naturels. Et donc voilà à quoi se résume le salon en général. Donc et beaucoup de stands de machines, donc des stands de machines, vous pouvez vous amuser, beaucoup de stands de prot. Et beaucoup de mecs qui posent. Donc, si vous attendez autre chose du salon, à part voir Julien samedi après-midi.
Voilà, bon, ça peut être l'occasion de faire des rencontres, ça peut être sympa.
Voilà, en général, les gens y vont pour faire des rencontres.
Ouais, il y a quand même pas mal de gens de la communauté musculation francophone qui vont à ce salon, même s'ils y vont pour rien, quoi.
Ouais, ouais, donc, moi, cette année, ce sera sans moi.
Faire des économies d'essence.
Non, j'ai n'importe quoi. Ouais. Non, j'ai fait le tour du salon. Moi, j'aimerais bien un vrai salon où il y a des trucs à faire. Donc peut-être le FIBO le mois prochain, mais on en reparlera d'ici là. Donc voilà, donc on a fini pour ce soir, et donc comme d'habitude, une bonne écoute à tous, et à la semaine prochaine.
Ciao. Salut. À tous.